Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. À la une, la dégradation de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Plusieurs responsables de l'ONU vivement préoccupés par la répression sanglante des manifestations en Irak. Coup de projecteur sur la participation du Burkina Faso à la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Et puis en dossier, le plaidoyer de Mama Koité Doumbia pour les droits des femmes et des filles maliennes. La République démocratique du Congo toujours à la une en cette fin de semaine, alors qu'au moins 100 personnes ont été tuées lors d'attaques violentes dans la région de Beni depuis le début du mois. Sur place, l'agence de l'ONU pour les réfugiés estime à 275 000 le nombre de personnes déplacées. Mercredi soir, 4 membres d'une équipe anti-Ebola ont été tués lors de 2 attaques armées. Une insécurité qui a forcé le Programme alimentaire mondial à suspendre une partie de ses distributions de nourriture liées à Ebola dans la zone de Beni, comme l'explique le porte-parole du PAM. Hervé Vérossel.
Je vous ai dit que nous avions arrêté nos opérations. Notre staff essentiel était resté sur place et n'avait pas été évacué. Ce staff essentiel dans la région reste à disposition pour les demandes urgentes. Donc s'il y a des demandes urgentes en fonction de la sécurité, le staff qui reste à Beni essaiera de supporter ce qui est possible de supporter. Là où les problèmes sont les plus importants, c'est dans la distribution spécialisée Ebola, où là, effectivement, si apparemment aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une suspension totale, il y a clairement des difficultés supplémentaires pour la distribution alimentaire de notre support Ebola. Apparemment, aujourd'hui, en tout cas, à la seconde où nous parlons, ce n'est pas une suspension totale. Donc nous essayons, dans la mesure du possible, avec notre staff à nous, essentiel qui est resté sur place, de supporter quand c'est urgent et quand on nous le demande, sachant que nos partenaires avec lesquels nous travaillons sur le terrain, leurs staff sont en grande majorité dans une autre location pour le moment, donc ne sont pas disponibles. C'est pour ça qu'il y a moins de distribution effectuée sur le terrain, beaucoup moins. C'est donc effectués par nos staffs qui sont là, les staffs essentiels.
La situation en Irak ne cesse d'inquiéter les Nations Unies. Jeudi soir, le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par la poursuite des tirs à balles réelles contre les manifestants. Ce vendredi, à son tour, Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme, a exprimé son profond trouble après les violences meurtrières observées ces derniers jours à Nassarya. Pascal Sim.
Antonio Guterres a vivement réagi jeudi soir aux informations selon lesquelles des tirs à balles réelles continueraient d'être effectués en Irak contre des manifestants. Dans une déclaration de son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU s'est dit profondément préoccupé et déplore le nombre croissant de morts et de blessés. Antonio Guterres exhorte tous les acteurs à s'abstenir de toute violence et à engager un dialogue pacifique et constructif dans l'intérêt de l'Irak et du peuple irakien. Il réitère son appel aux autorités pour qu'elles fassent preuve de retenue, respectent les droits à la liberté d'expression et enquêtent sur tous les actes de violence. De son côté, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est dit vendredi profondément troublée par les événements extrêmement violents survenus ces 2 derniers jours à Nassarya. Des violences au cours desquelles, selon la mission de l'ONU en Irak, 24 personnes ont été tuées et plus de 210 blessées. Les Nations Unies estiment que depuis les premières manifestations au début du mois d'octobre, au moins 350 personnes ont été tuées et 8104 autres blessées.
La conférence générale de l'UNESCO réunit actuellement à Paris plusieurs représentants des gouvernements. C'est notamment le cas de Karim Sango, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Alors que son pays est confronté à une insécurité importante et aux conséquences du changement climatique, Karim Sango souligne l'importance de la culture pour la paix au Burkina Faso. On l'écoute au micro de nos collègues de l'UNESCO.
La culture est un élément important pour un pays comme le Burkina aujourd'hui qui fait face à des défis comme l'extrémisme violent. Le gouvernement du Burkina Faso a compris qu'à côté du combat par la voie des armes, la culture peut constituer une arme redoutable, évidemment, pour éradiquer ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Parce que par la culture, il y a un dialogue interreligieux, un dialogue interethnique qui permet de consolider les bases d'une identité nationale et de faire face, effectivement, à ces défis. Du point de vue du changement climatique, je dois rappeler simplement que dans la culture africaine, dans l'imaginaire des Africains, l'homme et la nature font un seul. C'est notre ouverture à la civilisation, j'allais dire occidentale, qui a fait que la culture est présentée aujourd'hui comme un élément extérieur à l'homme. Tout jeune Africain a été éduqué dans le respect de la nature.
Mama Koité Doumbia se bat depuis plus de 25 ans pour améliorer les droits des femmes et des filles maliennes à tous les niveaux. Présidente de la plateforme des femmes leaders au Mali, elle défend entre autres la participation pleine, égale et significative des femmes au processus de paix et dans la vie politique du pays. Elle a participé il y a quelques jours au débat du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Elle a déploré la poursuite des trop nombreuses violations que subissent encore les femmes au Mali, des propos recueillis par Florence Westgaard.
Aujourd'hui, la crise perdure au Mali parce que la crise est sortie au nord pour revenir maintenant au centre. Et ce qui se passe au centre est très très grave actuellement. Pour de paisibles populations, des terroristes viennent attaquer à tout moment, sans raison, sans objet et brûlent. On nous fait croire que c'est une crise entre des ethnies. Nous ne pouvons pas croire en cela parce que les Peuls et les Dogons ont toujours vécu en harmonie, quand bien même il y a souvent des heurts, mais ça n'a jamais atteint ce que nous vivons aujourd'hui. Des villages entiers sont brûlés, des animaux sont brûlés, des vivres sont brûlés, des femmes enceintes, des enfants, des vieillards. Nous ne savons pas que dire face à cette situation dramatique. Et au nord, les violations graves continuent encore. Aujourd'hui, les femmes sont victimes de quoi ? Il y a beaucoup de filles qui ne vont plus à l'école. Il y a des écoles qui sont fermées. Les femmes ne peuvent pas aller au bord du fleuve. Les femmes ne peuvent pas aller faire leur petit commerce. Elles sont violées, elles sont attaquées. Pour quitter Gao, pour venir à Bamako, il n'est plus possible pour les filles de prendre le car. On les arrête en pleine brousse, on fait descendre les hommes, on leur prend tous leurs biens et les filles sont amenées à côté, je ne sais pas, sous des arbres et on les viole de façon massive. C'est des situations très très difficiles. Il y a beaucoup de femmes qui ont quitté le centre et le nord du Mali qui continuent encore à venir grossir les rangs des déplacés qui se trouvent à Bamako. Si vous allez à Bamako, tout autour, dans les écoles, dans les centres, on trouve des familles entières dénudées de tout. C'est très grave ce qui se passe chez nous, particulièrement dans ces deux régions du nord du Mali. Les femmes maliennes sont outrées. Les femmes maliennes ne sont plus à quel sein même se vouer par rapport à cette crise sécuritaire. Et aujourd'hui, nous avons besoin de paix. Comment on peut aller en paix avec cette situation qui perdure, avec ces drames qui continuent à se commettre sur les populations victimes?
Que faites-vous personnellement pour justement protéger le droit des femmes?
D'abord, nous avons levé la voix partout où ça doit être levé. Nous avons dit directement au Conseil de sécurité ce que nous vivons quotidiennement par rapport à cette situation. Nous avons parlé à l'Union européenne, nous avons parlé à l'Union africaine, nous avons parlé à la CEDEAO, nous avons porté partout les messages des femmes à toutes ces autorités pour dire ce que nous vivons quotidiennement. Nous avons mené des activités pour soutenir ces populations. Nous avons mené une campagne auprès des organisations, auprès des individus. Et nous avons fait la collecte de beaucoup de produits, des pains, des médicaments, du sucre, des savons. En tout cas, tout ce qui est nécessaire, on l'a transporté avec le soutien même de ONU Femmes pour aller donner à ces populations victimes. Mais nous avons parlé avec notre gouvernement aussi. Nous avons dit, ça ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose. Protéger les populations. Il faut qu'on mette en place vraiment des mécanismes pour sécuriser les populations civiles qui ont besoin de protection. Et les femmes aujourd'hui, avec leurs enfants, vivent dans la détresse la plus absolue. Nous avons mené beaucoup d'activités, de plaidoyer, d'information, de communication. Nous sommes en partenariat avec des partenaires qui nous soutiennent pour que les femmes qui sont victimes de viols, de violences et de toutes sortes puissent accéder à la justice. Nous avons demandé à ce que les réparations soient faites. Mais aujourd'hui, le mécanisme qui a été mis en place est en train de travailler sur le dossier pour savoir qui a fait quoi, comment ça a été fait. C'est vrai que des appuis sont en train de venir, mais c'est encore vraiment insignifiant par rapport à tout ce que nous avons aujourd'hui entre les mains comme victimes, comme déplacées, comme femmes réfugiées même dans les pays voisins pour les secourir, pour les aider, pour leur apporter vraiment des apports holistiques à tous les niveaux. Donc même des activités génératrices de revenus ont été mises en place par des organisations de femmes qui aident ces populations à sortir de la souffrance.
Et pourquoi est-ce si important que les femmes justement victimes de violences reçoivent réparation?
Mais c'est un problème de droit. Elles n'ont rien fait pour être violées. Elles n'ont rien fait aujourd'hui pour subir tous ces préjudices. Je pense que c'est un problème de droits humains qui se pose à ces victimes. C'est un problème de justice. C'est un problème de justice. Il faut rendre justice à ces femmes qui n'ont rien fait, qui ne font partie d'aucun objectif militaire pour subir ce qu'elles sont en train de subir. Donc nous pensons que réparation devrait être faite parce que c'est un droit le plus absolu et c'est normal que les auteurs payent de leur forfait et que l'État prenne ses responsabilités.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur Internet, mais aussi sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.